BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau. 90 minutes business.
Avec toute la team, comme tous les midis, Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Annalisa Capellini sont là aussi. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
On va analyser l'actualité économique, évidemment, à la mi-journée, au sommaire de ce mercredi 25 janvier. Ils sont tombés il y a quelques minutes, ces chiffres de la DARES, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre. Les chiffres, notamment pour la catégorie A, sont en baisse significativement. On va analyser tous ces chiffres avec Jean-Marc dans un instant. Notre invité dans 15 minutes est un acteur 100% français du transport en VTC, le CAB, qui annonce cette semaine garantir un tarif de course minimum de 10 euros net aux chauffeurs, 30% de plus en rémunération que les autres plateformes. On va en parler avec Yves Wesselberger, président de le CAB. Et puis, dans le débat, on va parler du streaming. Quel avenir pour le secteur entre les purges chez Spotify, la fin de Salto, le virage de Netflix? Les plateformes doivent se repenser en permanence. Ce sera à 12h40 avec Jean-Marc, Pierre et Charles Sterling et Annalisa Capellini sur ce plateau. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr et Lorraine Goumeau y répond en direct sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook. Ce sera donc à 12h55 tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
Et ces chiffres qui viennent de nous parvenir, les chiffres de la DARES, Jean-Marc Daniel, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi pour le quatrième trimestre, et puis les chiffres annuels évidemment, avec une baisse significative de cette catégorie A, ceux qui cherchent, ceux qui n'ont pas d'emploi du tout. Jean-Marc, une baisse pour le troisième trimestre et une grosse baisse sur l'année.
Oui, une assez grosse baisse sur l'année. On est maintenant à 2 834 000 demandeurs d'emploi. Donc on est vraiment en dessous de la barre des 3 millions qui avait pendant longtemps été une barre symbolique. Oui. Donc ça c'est pour la France métropolitaine. On est encore aux 3 millions si on ajoute les départements d'outre-mer. Ce qui est important effectivement c'est la tendance. C'est-à-dire que sur un an la baisse est de 9,4%. C'est-à-dire c'est assez significatif dans un contexte où la croissance elle est plutôt un peu en panne. Oui. Et donc on voit bien qu'il y a un effet donc de à la fois de reprise d'activité même si ça se voit pas directement pour l'instant dans les chiffres de la croissance. La dynamique cyclique qui m'est chère est en train d'agir de façon positive. Mmh. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde un peu dans les détails, toutes les activités particulières pratiquement sont concernées. C'est-à-dire que tous les secteurs sont dans une phase d'embauche. Et ça rejoint un peu cette situation un peu paradoxale où on a encore 2 800 000 chômeurs, mais on manque de main-d'œuvre. Il y a une dynamique sur la main-d'œuvre qui est intéressante. La dernière remarque que je ferai, c'est que nous partageons cette situation avec nos partenaires européens. Il y a vraiment, en ce moment, plutôt une situation assez favorable de l'économie, malgré toutes les incertitudes qu'il y a autour de nous.
On vous le dit et on vous le répète tous les jours avec Jean-Marc Daniel. Daniel, de l'optimisme.
Il faut être optimiste.
Exactement. On va y revenir tout à l'heure à 12h30 avec le rappel des titres de Stéphanie Collo. Le début aussi des publications très attendues, celle des GAFAM sur fond de licenciement massif. Microsoft ouvrait le bal hier soir comme prévu. C'est pas franchement brillant. Un bénéfice net en baisse de 12% sur un an. Des perspectives décevantes. On va y revenir dans les détails dans deux petites minutes dans le focus de Frédéric Simotel. Et la prochaine publication attendue ce soir, c'est Tesla, le constructeur qui a connu une année tumultueuse, marquée par sa plongée en bourse, ses problèmes logistiques, l'heure semble être visiblement à la reconquête. C'est ce que nous explique Justine Vassogne.
J'ai dormi sur le sol pour que l'équipe qui traversait des moments difficiles puisse me voir, pour que les employés sachent que je ne vis pas dans une tour d'ivoire.
Il y a quelques mois, Elon Musk racontait dans un entretien TED ses nuits passées dans l'une de ses usines. Un patron hyper investi qui manque aujourd'hui à Tesla et à ses actionnaires. « Rendez-nous notre CEO !» s'exclamait par exemple l'un d'entre eux sur Twitter il y a quelques semaines. Le temps passé par Elon Musk à s'occuper du réseau social, les polémiques qui en ont suivi ont terni l'image de Tesla et contribué à sa plongée en bourse. Elon Musk aurait-il entendu les critiques ? il semble en tout cas décidé à reprendre les choses en main. Sur le front de la gouvernance, d'abord, il s'est choisi un bras droit, Tom Zhu, qui dirigeait auparavant les activités de la marque en Chine et qui va désormais superviser les usines et les ventes de Tesla en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe part aussi à l'offensive sur les prix. Le constructeur a annoncé des baisses de tarifs substantielles sur ses modèles 3 et modèle Y en Chine, aux États-Unis et en Europe. Une guerre des prix destinée à faire taire la concurrence qui s'intensifie et à montrer sans doute qu'il y a bien un pilote dans la voiture Tesla.
Et puis l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. L'un des grands spécialistes de ce segment à Paris, Daniel Féau, vient de publier ses chiffres. Malgré le contexte géopolitique et économique, la demande explose et les prix déjà stratosphériques sur l'immobilier de prestige flambent encore un peu plus. Marie-Cœur de Roy.
Guerre en Ukraine, hausse des taux d'intérêt et incertitudes économiques, rien ne semble pouvoir freiner le marché de l'immobilier de luxe. Selon le spécialiste Daniel Féau, le prix moyen sur ce segment à Paris a dépassé l'an dernier les 17 000 euros du mètre carré. C'est 7 000 de plus que la moyenne des prix constatée par les notaires parisiens sur le segment classique. Plus spectaculaire encore, les surcotes des biens possédant jardin ou terrasse. Le prix moyen au mètre carré dépasse là les 21 000 euros. Concrètement, explique Daniel Féau, la présence d'un espace extérieur renchérit les prix de plus de 25%. Un écart historiquement élevé et qui s'est évidemment particulièrement creusé depuis les premiers confinements. L'autre élément moteur de ce marché du prestige, c'est évidemment la clientèle étrangère. Bel et bien de retour, elle a pesé pour près d'un tiers des achats l'an dernier, contre environ 20% au plus fort de la crise sanitaire. Sur l'ultra-luxe, les étrangers sont encore plus présents, à l'origine de près de 40% des ventes supérieures à 3 millions d'euros.
Allez, c'est l'heure de notre focus. Frédéric Simotel, la tech souffre aux États-Unis, on n'arrête pas de le dire, hein, des dizaines de milliers de licenciements annoncés chez les GAFA, mais ce ne sont pas les premiers résultats trimestriels qui tombent, qui vont rassurer le marché. Frédéric, hein, Microsoft a ouvert le bal hier soir avec une croissance au ralenti.
Oui, et quand ça ne va pas, puisqu'on apprenait ce matin que plusieurs services, alors vous en avez peut-être été victime, si vous nous écoutez, vous nous regardez sur Teams, Outlook, LinkedIn.
Ça marche pas.
Et puis même pour ceux qui font des jeux vidéo. Bah oui, depuis 8h30 ce matin, il y a plein de pannes au niveau mondial, hein, c'est pas uniquement en France, donc voilà, ça arrive, mais ça tombe quand même au mauvais moment. Donc oui, des résultats au deuxième trimestre, alors en hausse, mais très légère, hein, de 2%, chiffre d'affaires quand même à 52 milliards, près de 53 milliards de dollars, et des résultats nets, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Alors, qui reste, je pense que beaucoup d'entreprises aimeraient avoir, hein, 16,4 milliards de dollars trimestriels de résultats nets, c'est quand même pas mal, mais pour Microsoft, c'est une chute de 12%, et là, ça a été très, très mal accueilli à la fois par la bourse, par le marché. C'est la plus faible croissance enregistrée par Microsoft depuis 6 ans. Tous les voyants sont au rouge, hein, les licences Windows, la partie hardware avec tous les surfaces qui se vendent moins, même la partie publicité, la publicité chute aussi, les jeux vidéo, bah oui, c'est plus forcément des priorités en période d'inflation, la croissance post-Covid où tout le monde s'est équipé en écran, en PC, en service de vidéo en ligne, en service de mode de travail collaboratif, voilà, c'est un peu passé, ouais. Et puis Microsoft, alors avait un peu anticipé, hein, ils ont 10 000 licenciements, ils ont commencé c'est souvent dans ces moments-là on voit les priorités prises, hein, et là ils ont laissé filer leur activité métaverse avec une société qu'ils avaient rachetée qui s'appelait Altspace. Même HoloLens, ces casques de réalité virtuelle, sont en train d'être un peu mis sur la touche. Donc voilà, priorité sur d'autres lignes.
Et alors, sur quel relais de croissance ils vont s'appuyer, miser au cours des prochains mois, Frédéric ?
Alors, ça va être le cloud, évidemment, le cloud Azure, alors surtout pour les entreprises. Alors, même si la croissance, elle est à plus 18%, en moyenne, les autres trimestres étaient plus 30%, donc une croissance un peu moindre, mais quand même, c'est là. Il y a encore 50%. Ils estiment que rien qu'aux États-Unis, 50% des entreprises et des grandes administrations sont encore à migrer vers le cloud, donc là il y a encore un potentiel, oui. Même si la concurrence est rude, hein, avec Amazon et Google. L'intelligence artificielle, Microsoft a annoncé qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, hein, qui fait beaucoup l'actualité en ce moment avec ChatGPT.
Oui.
La cybersécurité, Microsoft est l'un des gros acteurs en cybersécurité. Après, ils vont cibler des secteurs industriels, donc l'industrie 4.0, l'univers de la santé aussi, avec là aussi ce sont des secteurs en forte croissance pour Microsoft. Et puis il y a toujours cette attente autour du jeu vidéo, vous savez qu'ils sont en cours de rachat de Activision Blizzard, près de 70 milliards de dollars, mais là aussi ça prend un peu l'eau parce que le contexte réglementaire américain, européen est un peu contre cette fusion.
Jean-Marc, un commentaire?
Oui, juste un commentaire, on est dans un un monde d'ingénieurs. Donc, je rappellerai que quand on arrive à maturité, il y a une sorte de courbe assez naturelle qui se fait. Pour les ingénieurs, on appelle ça une courbe en tangente hyperbolique. Et donc, je pense que nous comprenons. Je pense que les auditeurs, téléspectateurs qui sont un peu spécialisés de ça nous comprennent aussi. Il y a un moment où ça plafonne. Oui. Et c'est ça, en français, c'est ça que ça veut dire, ça plafonne. La tangente hyperbolique, ça plafonne. Et donc, il faut trouver un relais de croissance. C'est-à-dire, ou bien on se diversifie, ou bien, dans un premier temps, on fait du cost-scaling, mais assez vite, si on ne se diversifie pas, ça stagne.
C'est à court terme, effectivement. Merci beaucoup. Merci Frédéric Simotel. On va faire un point Euronext tout de suite. Et Antoine, le CAC 40 qui vire au rouge à la mi-journée.
Ben oui, il disait quoi Jean-Marc, que ça plafonne? Ben ça plafonne aussi à Paris, hein, avec un CAC 40 très clairement qui n'arrive pas à accrocher les 7050, on est à 7028, on va sans doute tester les supports du côté des 7000. On est en repli de 0,31%, moins 0,46% pour l'Eurostock 50, moins 0,33%, une séance un petit peu bizarre à Paris, au lendemain d'une séance alors franchement mouvementée du côté de Wall Street. On en a beaucoup parlé ce matin, mais il y a eu des incidents techniques très sérieux qui ont empêché la cotation de certains titres et provoqué des chutes, alors absolument colossal et inexpliqué. Bon, tout est rentré dans l'ordre, mais il y a un sérieux et mystérieux dossier à dénouer pour la place de New York sur ces incidents de cotation. Ça a instauré un petit peu de nervosité sur la place américaine. Du coup, on a eu aussi les résultats de Microsoft que, au final, on a arbitré de manière négative. Et c'est ce qui explique sans doute cette tendance négative qui règne sur les marchés ce matin. À noter les taux d'intérêt qui se sont un tout petit peu tendus après l'indice IFO allemand qui était un petit peu meilleur qu'attendu. Donc du coup, on a à la baisse Unibail-Rodamco-Westfield qui recule d'1,6% à 57,82€. On a l'ensemble du secteur techno avec Téléperformance qui recule d'1,6% à 247,60€ ou Capgemini, moins 1,24€ à 171€. Parmi les valeurs à la hausse, en revanche, Engie, encore une bonne séance. Le titre accumule les bonnes performances, plus 0,85% à 13,07€. On a Airbus, plus 0,3 à 121,16€. Carrefour, plus 0,23 à 17,25€. Safran, plus 0,17 à 131,50€. Le CAC 40, donc moins 0,3%, on est à 7028 et l'euro lâche un peu de lest alors qu'on gravitait autour d'1,09 ces derniers jours. Là, on est à 1,0862, Sandra.
Ne partez pas trop loin, Antoine, on vous retrouve à 12h30. Vous nous parlerez de la BCE, thème cher à Jean-Marc Daniel. Allez, tout de suite, c'est l'édito, justement, de Jean-Marc.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et vous revenez, Jean-Marc, sur la situation du Ghana, qui, depuis quelques jours, est officiellement en défaut sur sa dette en dollars, Jean-Marc.
Oui, absolument. Dans tous ces indices et toutes ces nouvelles qui sont plutôt positives et qui nourrissent l'optimisme, il y a quand même une chose qui, moi, m'inquiète, c'est l'évolution de la dette des pays émergents. Oui. Et donc, c'est d'autant plus important de regarder ça que les pays qui sont touchés en ce moment sont quand même des économies assez significatives. Alors, ce qui est intéressant avec le Ghana, par ailleurs, c'est que c'était un des pays qui était donné un exemple comme ayant était un bon élève, un modèle qui avait redressé sa situation dans les années 2000 avec une stabilisation de sa monnaie qui s'appelle le CEDI. Or là, le 18 décembre, le Ghana a annoncé qu'il ne serait pas capable d'honorer ses engagements à compter qui sont prévus pour le 18 janvier. Il a entamé des négociations avec le FMI. Ces négociations sont en cours mais n'ont pas encore abouti. Et donc, le 18 janvier, effectivement, ce que devait le Ghana en dollars n'a pas été honoré. Quand on regarde plus en détail, il y a 6 pays, outre le Ghana, qui vont probablement être dans cette situation cette année. Donc, il y a l'Argentine, qui est un peu pays dans cette situation de façon récurrente. Oui. Il y a l'Égypte, il y a la Turquie, il y a le Pakistan, il y a le Kenya et il y a la Tunisie. Et tous ces pays, la Turquie, l'Égypte, ce sont des grosses économies, des pays avec une population nombreuse. Et donc, je pense que le monde devrait s'intéresser à la situation de ces pays, regarder ça de très très près. D'autant plus que ce sont des pays où, en plus, il y a une inflation qui est une inflation énorme avec des conséquences sur la population qui incite la population à être extrêmement irritée, agacée, en
révolte.
Parce
qu'on leur demande des efforts, Jean-Marc, alors que c'est un problème de dépenses publiques.
Voilà, il y a un problème de dépenses publiques. Pour essayer d'équilibrer les comptes, on leur demande des efforts. Ils subissent par ailleurs une inflation considérable. Les États sont incapables de remettre de l'ordre dans leurs finances et donc on est véritablement sur une poudrière. Alors, je signale que par ailleurs, il y a deux pays qui sont également concernés en Europe, qui sont la Roumanie et la Hongrie, qui ont entamé des négociations avec le Fonds monétaire international. Normalement, l'Europe devrait venir à leur secours, mais tous les pays doivent remettre de l'ordre dans leurs finances publiques. Il n'y a pas que le Ghana. Il y a aussi des pays développés qui devraient regarder ça avec un peu plus de circonspection.
Je vous entends dire ça tous les jours. Hein.
Hélas,
quel que soit le pays,
je le répète, Jean-Marc, avec assez peu d'efficacité.
Merci beaucoup. Allez, dans un instant, n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission. 12h55, 90 minutes business avec vous, Lorraine. Vous allez recruter beaucoup de monde, notamment ce midi, pour assurer la saison de ski à Val Thorens.
Oui, le directeur de l'office du tourisme de Val Thorens sera avec nous. 5000 saisonniers et saisonnières, c'est ce dont il a besoin pour faire tourner la station et tout l'écosystème autour. Vous verrez, on parlera des enjeux autour de ces métiers saisonniers, mais évidemment aussi du futur, hein, de l'économie de la montagne et évidemment du ski qui est un gros sous-jacent.
On va vous répondre évidemment à vos questions. C'est la libre antenne de l'économie. Vous posez toutes vos questions sur cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Avant l'émission, pendant l'émission, Lorraine tente d'y répondre évidemment. Et en ce qui nous concerne, dans un instant, on va recevoir un acteur 100% français du transport en VTC, Le Cab. C'est Yves Wesselberger, le président de Le Cab, qui sera avec nous. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Yves Wesselberger, le président de Le Cab. Bonjour.
Bonjour.
Plateforme de VTC française présente dans quoi ? 24 villes ?
24 villes en France,
c'est
absolument.
Ça. Et vous annoncez cette semaine cette nouveauté. Alors, on a parlé des négociations sociales du secteur VTC qui ont permis aux chauffeurs de sécuriser un prix minimum de course à 7,65 €. Le Cab, lui, garantit un tarif de course minimum de 10 € net chauffeur. C'est votre décision ?
Exactement. Alors, c'est un des deux éléments de ce que nous annonçons. J'hésite pas à dire que c'est peut-être une des plus importantes avancées sociales depuis que le monde du VTC existe. Si on contextualise, la France a une position, c'est que les chauffeurs sont des travailleurs indépendants. Bon, ça, c'est la position de la France. Mais on dit, ce sont des travailleurs indépendants qui travaillent avec un nombre de donneurs d'ordre limité, comme peuvent l'être d'autres types de métiers, et que du coup, il y a un besoin en matière de protection sociale et de protection des intérêts des chauffeurs. Donc la loi a créé, il y a une loi récente qui a créé des négociations sectorielles avec des élections comme dans le monde salarié. Les chauffeurs sont représentés par des syndicats, etc. Et ces négociations ont conduit à un accord qui, en effet, donne un tarif minimum de 7,65 € par course au chauffeur, quelle que soit la durée de la course. Donc le Cab fait beaucoup mieux, puisque c'est 24% de plus, c'est 10 €, c'est un nombre rond, c'est un nombre élevé. Donc c'est vraiment une annonce forte. Et ça, c'est un des deux éléments de ce que nous faisons. Après, il y a un deuxième élément.
Le tarif horaire.
Voilà, et ça, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que là, on passe dans quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire de dire, les chauffeurs, quand vous travaillez avec nous, le temps que vous nous consacrez ne peut pas rapporter moins qu'un certain montant. Mmh. Et le montant dont on parle, c'est 35 €. 35 €, c'est un montant très élevé. Pour vous situer, le SMIC, par exemple, est à 11,27. Donc, c'est trois fois le SMIC. C'est pas la même chose. C'est du revenu. Ils doivent assurer leurs dépenses, le carburant, les véhicules, ce qu'ils payent aux plateformes, etc. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Le Cab invente un concept. Et c'est ce concept de revenu horaire minimal pour les chauffeurs.
Donc, vous annoncez ces deux décisions. Sur quoi va reposer ce prix ? Est-ce que c'est le client qui va absorber cette hausse ? Je parle pour la course de 10 € minimum. Le revenu pour le chauffeur qui va à chaque course prendre 10 €. C'est le client qui va le payer, c'est la plateforme qui compense. Comment ça se passe ?
Alors, en gros, c'est la plateforme qui compense, c'est nous. Il y a une petite exception à ça, vous venez de le mentionner. Il y a une course minimum qui augmente, c'est-à-dire il n'y a plus de course à 8 ou 9 €. Ça représentait moins de 5% des courses, donc ce n'est pas un phénomène majeur. En revanche, l'autre élément, le revenu horaire chauffeur, il est complètement assuré par la plateforme. Il n'y a aucun impact sur le prix des courses. Donc pour les clients, pour 95% des courses, il n'y a aucun changement. Et pour les toutes petites courses, effectivement, il n'existe plus de toutes petites courses de moins de 10 €.
Ça va donner quoi ? Une course à 12 € minimum ?
Voilà, ça donne une course à 12 €.
12 € exactement. La raison de ça, c'est garder des chauffeurs, les attirer.
C'est garder les chauffeurs, mais c'est aussi de dire, les chauffeurs sont des personnes qui ont le droit de gagner leur vie correctement. Mmh. Il faut bien voir que quand vous aviez des courses à 8 €, ça fait quelque chose comme 6 ou 6,50 pour le chauffeur, il doit payer toutes ses charges, il ne lui reste presque rien. Oui. Et donc, Les chauffeurs sont des travailleurs qui doivent être respectés. Ce ne sont pas des personnes qui font des t-shirts en Chine à un dollar de l'heure, etc. Et donc, le revenu dont il s'agit, c'est un revenu tout simplement minimal, normal pour un chauffeur.
Voilà. Pierre. Juste, vous exigez quoi en contrepartie? Est-ce que vous demandez au chauffeur de vous être 100% fidèle, de travailler
absolument
avec
pas.
Vous?
Absolument pas. Ce que nous faisons, je dirais, n'a aucune contrepartie pour les chauffeurs. Les chauffeurs auront davantage envie de travailler avec le CAB. Le CAB montre que nous sommes une plateforme sociale, une plateforme qui aime les chauffeurs. Et ce que nous espérons, donc c'est notamment une preuve d'amour ici, pas, ce que nous espérons, c'est que les chauffeurs aimeront ce que nous faisons aussi et viendront travailler avec nous, mais ils n'y sont pas contraints.
Jean-Marc. Oui, pour rebondir sur la question de Pierre, vous avez quand même un lien formel sur le plan juridique avec vos chauffeurs. Il est de quelle nature? Vous avez signé des contrats. Quand vous voulez vous défaire d'un chauffeur, par exemple, si il s'est montré indélicat avec un client, si il n'a pas été à l'heure au rendez-vous, etc. Est-ce que vous avez des moyens précis? Vous n'êtes pas dans une relation salarié. Le salarié,
non.
Il y a des procédures de licenciement, il y a des procédures de démission. Comment ça fonctionne concrètement sur le terrain?
Nous avons une relation qui est une relation commerciale. On est travailleurs indépendants.
Signe un contrat.
On signe un contrat, comme on signerait un contrat avec n'importe quel autre partenaire commercial. Ce contrat inclut effectivement un minimum de professionnalisme de la part du chauffeur. Après, il y a quand même des règles, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de suspendre ou d'interrompre la relation sans raison avec les chauffeurs, etc. Il y a une forme de protection, mais en effet, je ne sais pas, moi, imaginez que vous soyez dans une voiture et qu'un chauffeur prenne un sens interdit, ce qui n'est en général pas le cas, vous comprendrez bien que vous pouvez pas, vous n'avez pas envie vous-même, en tant qu'utilisateur, d'être dans cette voiture. Donc, il est normal qu'un certain nombre de règles s'appliquent aux chauffeurs, et que s'ils ne le respectent pas, effectivement, la relation puisse s'interrompre.
Pour terminer, on parle du contexte. C'est un secteur très concurrentiel. Le CAB existe depuis quoi, 10 ans?
Oui.
Comment on fait la différence? Comment on s'impose? Comment on garde sa place? Les taxis se sont adaptés. Le secteur des VTC s'est énormément transformé sur ces 10 années. Comment on fait pour rester la tête en dehors de l'eau?
Il y a des besoins de mobilité qui sont en croissance très forte tout le temps. Ça, c'est le premier point. Et donc, il y a de la place pour beaucoup de monde.
Très forte demande.
Deux, le CAB a un message qui est un message de qualité et aussi un message fort vis-à-vis des entreprises. Nous avons beaucoup de clients entreprises. Les entreprises apprécient ce que nous faisons et on se différencie avec une proposition de valeur originale pour eux. Avec ce revenu garanti pour les chauffeurs, le service client va encore s'améliorer et les clients auront encore davantage de raisons de travailler avec nous.
Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Yves Wesselberger, d'être venu nous voir, président de Le CAB, cette plateforme française de VTC. Merci d'être venu voir dans 90 Minutes Business. Tout de suite, le top 3 du web.
90 Minutes Business, le top 3 du web.
Le moment préféré de Jean-Marc Daniel avec Pierre Kupferman qui était déjà sur ce plateau, vous l'avez entendu. Pierre, on commence par ce point sur la grève du 31 janvier, c'est la semaine prochaine, et celle qui pourrait intervenir avant ces mouvements.
Oui, avant d'ailleurs, et aussi après, vous allez voir.
Oui.
Donc on va déjà parler des trains. Je sais que Jean-Marc est très attentif à ce qui se passe sur le réseau de la SNCF. Donc, en plus de la grève du 31, la CGT...
Pas sur tout le réseau, sur les liaisons.
L'Ouest.
Sud-Ouest. En plus de la grève du 31, la CGT Cheminots a donc déposé un préavis qui va du mercredi 25 janvier, 19h, au jeudi 2 février, 8h du matin. Appel à la grève qui a été repris par Sudrail. Donc, les deux organisations syndicales, ont aussi évoqué deux pistes pour l'après 31 janvier, qui consisterait en deux jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février, ou éventuellement une grève reconductible à partir de la mi-février. Donc là, on parle pendant les vacances scolaires.
Mais ce n'est pas tout.
Non, on a aussi les aéroports avec les syndicats. Donc c'est uniquement l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. C'est quand même notre plus gros aéroport en France.
Ouais.
Les syndicats se sont mis d'accord pour une grève pour la journée du 31. Je vous rappelle qu'il y a 100 000 salariés dans l'aéroport. Donc possibilité quand même de bloquer en partie l'économie ce jour-là. Mais on sait aussi que la mobilisation s'annonce délicate parce que les syndicats sont conscients que dans le contexte d'inflation, chaque jour de grève pénalise le pouvoir d'achat des salariés concernés. Alors, on peut aussi parler des stations de ski.
Ah oui.
Vous avez les deux principaux syndicats de salariés des remontées mécaniques, c'est-à-dire Force Ouvrière et la CGT, qui ont déposé des préavis de grève pour le 31 janvier. mais pas au-delà.
C'est gentil.
Voilà. Dans l'éducation nationale, les syndicats appellent aussi à se mobiliser le 31 janvier. Vous avez le syndicat des professionnels de l'éducation nationale, le SNAL, qui a répondu favorablement à l'appel à la grève. Et, c'est important, Sud-Éducation, qui propose une reconduction de la grève après le 31 janvier. On rappelle quand même que Sud-Éducation, c'était un syndicat minoritaire. Je finis avec l'énergie. Pas de front uni pour le moment dans le secteur. Dans les raffineries, la CGT Pétrole a prévu des grèves les 26 et 27 janvier, ainsi que le 6 février. Mais le syndicat n'exclut pas de se joindre au mouvement de mardi prochain. Un commentaire, Jean-Marc.
Oui, on voit bien que la stratégie des syndicats, c'est encore une fois de moins en moins de compter sur les mobilisations dans la rue, sur l'affichage d'un soutien assez abondant de la part de la population, c'est de la prendre en otage, même s'il ne faut pas dire ça, paraît-il.
C'est des blocages.
C'est des blocages pour que la population soit directement touchée, soit directement concernée et que l'opinion publique fasse pression sur le gouvernement. Mmh. Il y a une sorte à la fois de radicalité, mais aussi d'aveu de faiblesse, je trouve, de la part des syndicats, de vouloir priver les gens de vacances, de remonter mécanique, d'essence, d'électricité, et c'est vraiment pour moi plutôt un aveu de faiblesse. Donc, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est ne cédez pas.
En tout cas, c'est de plus en plus imaginatif, Jean-Marc. On continue avec ce ras-le-bol d'un père à propos des groupes de messages familiaux, hein, ras-le-bol devenu viral.
Ah oui, 15 millions de vues pour ce cri du cœur d'un père de famille américain. On est aux États-Unis, hein. Ce père de famille qui n'en peut plus, je le cite, de cette pression, alors je le cite en français, hein, de cette pression de devoir toujours rigoler ou aimer ou apprécier les pensées, les photos, les plaisirs aléatoires de tout le monde. Les groupes WhatsApp, on le sait, et c'est pas seulement aux États-Unis, ils sont très prisés depuis la pandémie, ils deviennent parfois lourds à supporter, d'autant qu'ils se multiplient. Est-ce que vous êtes, d'ailleurs, Jean-Marc, dites-nous, dans un groupe de ce type?
Ah, je suis dans un groupe familial, mais je remercie ma famille de savoir se modérer et donc d'éviter les débordements. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, on mesure le temps que l'on consacre à sa vie de famille et de plus en plus le temps qu'on y consacre est consacré au divorce et de moins en moins à des échanges. Donc, je pense que l'ambiance familiale américaine explique en partie l'irritation et l'agacement du personnage en question.
Et on finit, Pierre, avec cette annonce du ministre de la Transformation et de la Fonction publique qui veut favoriser le mentorat afin d'accroître la diversité dans la fonction publique.
Oui, Stanislas Guérini explique dans un message vidéo qu'il souhaite que toute personne, peu importe ses origines, son milieu social, puisse accéder aux plus hautes fonctions dans la sphère publique sur la seule base de ses compétences. Et pour ça, dit Stanislas Guérini, on a un outil qui est particulièrement précieux qui s'appelle le mentorat. Alors, c'est quoi un mentor dans la fonction publique ? Ben, c'est quelqu'un qui va consacrer 2 heures par mois de son temps à transmettre son savoir et ses compétences à un jeune. Est-ce que vous savez, Jean-Marc, combien de fonctionnaires font aujourd'hui du mentorat en France ?
Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont assez de temps pour le faire.
2500.
2500.
C'est peu. On peut mieux faire.
On peut mieux faire. Je pense que le souci du ministre, ça devrait être non seulement d'assurer une plus grande diversité dans les recrutements, mais une réduction des recrutements aussi.
Merci messieurs, vous restez autour de cette table dans un instant, le débat, Charles Sterling va nous rejoindre. Mais avant cela, le rappel des titres de Stéphanie Collot, à tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, c'est la baisse significative du chômage au quatrième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A recule de 3,6%, 74 000 inscrits en moins et de 5% sur un an. Pour les catégories A, B et C, le nombre de chômeurs recule de 0,8% selon le ministère du Travail. La réforme des retraites, les leaders syndicaux se réunissent aujourd'hui pour tenter de mobiliser dans la durée. CGT et Sud envisagent une grève reconductible à partir de la mi-février. L'objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour les vacances d'hiver. Les syndicats de la SNCF appellent déjà à la grève les 7 et 8 février. L'Allemagne va éviter la récession en 2023. Le gouvernement table sur une croissance de 0,2% sur l'année contre un recul de 0,4% initialement anticipé. Et du côté de l'inflation, eh bien, elle devrait s'établir à 6% selon le rapport de l'exécutif. Toujours en Allemagne, les locaux de BNP Paribas à Francfort sont actuellement perquisitionnés par la police. C'est une information du Handelsblatt. C'est dans le cadre d'investigations liées aux Comex Files sur un dispositif de fraude fiscale portant sur des milliards d'euros. La banque se refuse à tout commentaire. Aux Pays-Bas, le fabricant de semi-conducteurs ASML publie un bénéfice net en baisse de 4% en 2022 à 5,6 milliards d'euros malgré une forte demande. La hausse des frais de personnel et les dépenses de R&D pèsent, mais le groupe anticipe une croissance de ses ventes de plus de 25% cette année. En France, Alstom publie un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur les 9 premiers mois de l'année à plus de 12 milliards d'euros. Les prises de commandes tirées par la demande européenne progressent à 15 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire confirme ses objectifs pour cette année. Booking conclut un accord avec le fisc français. La plateforme s'acquitte d'une amende de 153 millions d'euros. En 2016, Booking s'était vu notifier un redressement de 356 millions d'euros portant sur la période 2006-2018. Microsoft, victime d'une panne géante depuis ce matin. Elle concerne ses services Microsoft 365, notamment Teams et Outlook. Des incidents sont signalés aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Inde et au Japon. Le groupe travaille au rétablissement de ses outils. On termine ce flash par un coup d'œil au marché. À la mi-journée, le CAC évolue toujours dans le rouge, moins 0,3%, 7029 points, Sandra.
Merci beaucoup, Stéphanie Collot.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et avant de rejoindre Antoine Larry-Gaudry à Euronext, on refait un petit commentaire, Jean-Marc, sur ces chiffres de la DARES qui sont tombés à midi pile aujourd'hui. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre, moins 3,6% pour ce quatrième trimestre en catégorie A, moins 9,3% sur l'année, Jean-Marc.
Oui, exactement. Oui. Donc la catégorie A, c'est ce qui correspond assez traditionnellement à ce qu'on peut considérer comme des chômeurs, parce qu'après les autres catégories, c'est des gens qui ont un emploi mais qui cherchent à changer d'emploi ou qui sont à temps partiel. Et donc, ce qui est important dans cette évolution, c'est que non seulement on a donc une réduction assez significative du nombre de chômeurs, mais on est descendu maintenant, clairement, en dessous de la barre des 3 millions. On a 2 834 000 demandeurs d'emploi en catégorie A en France métropolitaine. Mmh. Il y a 3 millions de chômeurs en tenant compte des territoires et départements d'outre-mer, mais on a donc une évolution qui est extrêmement marquée et extrêmement favorable sur le front de l'emploi. Donc les promesses, les engagements, les affirmations du gouvernement en disant que on allait avoir une baisse du chômage qui nous ramènerait à 7,5% de chômeurs, 5% de chômeurs en 2027, ça paraît accessible.
Tout à fait accessible. Ce qu'on appelle le plein emploi.
Voilà, on peut tendre vers le plein emploi et on est dans une phase conjoncturelle, dans une phase où le cycle joue en faveur de la création d'emplois. Donc, je pense que c'est pas un événement isolé dans le temps. On va avoir une amélioration régulière désormais du marché de l'emploi.
Les chiffres de la DARES commentés toute la journée, évidemment, sur BFM Business. On va vous rejoindre en direct, comme tous les jours, à Euronext. Antoine Larry-Gaudry à la Défense. On revient ce midi sur les réflexions de la BCE autour du soutien à l'investissement vert. Antoine.
Oui, effectivement, il y a de quoi se poser des questions sur les marchés et on est en train de s'en poser parce qu'on rappelle le mécanisme. Hein, la BCE a pour l'instant comme projet de créer des instruments de suivi des investissements du secteur bancaire européen en matière notamment d'énergie verte et de développement durable afin, en gros, de décourager les investissements dans les énergies fossiles et dans la vieille économie et soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables et tout ce qui est green business, hein, effectivement. Deux questions. La première, j'ai déjà la réponse et je sais que Jean-Marc a un avis très tranché là-dessus. Est-ce que c'est bien le boulot d'une banque centrale de s'occuper d'environnement ? Le boulot d'une banque centrale, je vais vous faire une confidence, j'ai pas fait d'école d'économie dans la vie, mais bon, on m'a toujours dit que c'était une instance qui contrôlait une zone monétaire, qui assurait la stabilité d'une monnaie, qui gérait une masse monétaire et qui jugulait un certain nombre de phénomènes, genre l'inflation. S'occuper de développement durable, est-ce que ce serait pas plutôt du ressort directement du système bancaire lui-même, ce qu'il fait déjà hein, d'une certaine manière, à travers un mix d'activités plus ou moins vertes, qu'il essaie justement de verdir en ce moment à mesure qu'évoluent les critères ESG. Deuxième problème, il s'agit de l'équité de traitement Parce que si on commence à décourager certains investissements pour en encourager d'autres au nom d'une politique environnementale aussi favorable soit-elle de la part d'une banque centrale, bah, il y a une différence de traitement entre cette entreprise et cette entreprise. Est-ce que c'est dans ses statuts? Est-ce qu'elle a le droit de faire ça d'une manière ou d'une autre, hein, à travers le contrôle de certains instruments? Et puis, d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'en termes de montant net, les plus gros investisseurs en matière d'énergie verte, en particulier, c'est qui ? C'est les pétroliers. Ils ont investi depuis des années, des milliards de dollars. Et si on regarde les chiffres et les courbes sur les dernières années, hein, on voit que Total investit plus en énergie verte que EDF, par exemple. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de créer des déséquilibres qui risquent d'être plus contre-productifs qu'autre chose ?
Alors, Jean-Marc, est-ce que c'est le rôle d'une banque centrale ?
Voilà, c'est la grande question. Non, ça ira très vite. Non. Alors ensuite, on peut interpréter tout ce qui se passe. Je rappelle simplement qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu la création d'un réseau qui s'appelle le NGFS, auquel adhèrent les banques centrales, qui est un réseau qui donc se donne comme objectif de verdir le système financier. Et il y a eu une réunion en début d'année à Stockholm sur à quoi sert une banque centrale, sachant que la Banque de Suède a été la première banque centrale créée dans l'histoire. Et Jérôme Powell est intervenu pour expliquer ce qu'il estimait être le rôle d'une banque centrale après des travaux de recherche de ses équipes. Et il a dit en particulier que le rôle de la banque centrale n'était pas de chercher à orienter l'action du système financier vers tel ou tel secteur, que c'était aux États de définir une politique cohérente dans la lutte contre le réchauffement climatique et que la banque centrale était là pour la stabilité des prix. Donc je pense que Madame Lagarde devrait relire la communication de son collègue et néanmoins ami Jérôme Powell. Et si elle veut vraiment agir, je maintiens qu'elle baisse la température dans les couloirs de la BCE à Francfort. Ce sera, à mon avis, ce qu'il y a de plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique.
Et l'équité de traitement, alors, Jean-Marc ?
L'équité de traitement, je rejoins effectivement ce que dit Antoine. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas véritablement de critères, on rentre effectivement dans des formes qui sont des formes d'arbitraire, avec des gens après qui vont artificiellement créer des objets, des vecteurs pour essayer d'obtenir les dérogations nécessaires, on rentre effectivement dans un micmac bureaucratique pas possible.
Voilà, vous avez vos réponses, Antoine.
Voilà. Que Madame Lagarde achète ses cols roulés.
En fait, de vouloir faire... Voilà, en fait, de vouloir faire du green concret, ben on risque d'entraîner le greenwashing, justement, et ça risque effectivement d'être contre-productif.
Contre-productif, exactement. Merci beaucoup, Antoine Larigauderie. Allez, dans un instant, notre débat, cette question, l'âge d'or du streaming touche-t-il à sa fin? Les plateformes doivent sans cesse se réinventer. On va donner plusieurs exemples dans un instant. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Charles Sterling sont sur ce plateau. À tout de suite.
90 minutes business, le débat.
Le débat, et on va parler de streaming aujourd'hui sur ce plateau. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Charles Sterling, créateur de contenu, consultant data, qui nous a rejoint autour de cette table et ces différents exemples, finalement, du streaming. Est-ce que l'âge d'or est terminé? On parle beaucoup de Netflix en ce moment particulièrement. Charles, déjà, votre impression sur ce thème?
Mais écoutez, pour moi, l'âge d'or du streaming, j'ai l'impression qu'il est un peu passé récemment, parce qu'en fait, il avait bénéficié notamment de la crise Covid, hein, forcément, puisque tout le monde était à la maison, tout le monde a pris des abonnements Netflix, sauf qu'aujourd'hui, on voit que les abonnements Netflix, du moins l'an dernier, avaient commencé à diminuer. Tout simplement, je pense que la qualité sur Netflix aussi se dégrade. Mais aussi à cause de la diversité de l'offre. Parce qu'aujourd'hui, il y a Netflix, mais il y a Hulu, il y a HBO, il y a OBS, Prime, il y a tout ce que vous voulez, en fait. Et ça devient, je pense, un peu compliqué pour les consommateurs, finalement, de payer 200 abonnements pour avoir accès à certains films et séries qui, parfois, changent de plateforme d'un mois à un autre. Donc, ça devient très compliqué, je pense. Et à terme, même s'il y a une émergence de nouveaux d'acteurs, je pense qu'à terme, il y aura une consolidation du marché, parce que ça devient pénible. Vraiment.
Confirmation avec vous, Pierre, les chiffres sont éloquents.
Ah, bah oui. J'ai repris les chiffres du cabinet spécialisé Ampère Analysis. Est-ce que vous savez de combien a baissé la production du nombre de séries pour adultes entre le premier et le deuxième semestre de 2022? On parle aux États-Unis.
Hein. Jean-Marc, une idée?
Aucune idée, c'est 20 ou 25%.
Bien, 24%. Ouais. Et si on compare à 2019, parce que c'est ça qui est intéressant,
c'est ça la vraie référence.
Et ben c'est 40% de moins. Ah ouais. Et en fait, il n'y a plus que deux plateformes qui aujourd'hui augmentent leurs commandes. C'est Apple TV+, et Amazon Prime Video. Particularité de ces deux plateformes, c'est que elles ont une maison mère qui tire leur profit d'une activité qui n'a en fait, pas grand-chose à voir, on peut le dire, avec le streaming. Donc, ils peuvent se permettre. Et d'ailleurs, quand on regarde Netflix par rapport aux autres, Paramount, NBC Universal, Warner, eux aussi sont des groupes qui tirent encore leur profit d'activité historique, certes moins rentable que par le passé, mais qui leur permettent de continuer à, malgré tout, financer des activités de streaming qui sont déficitaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi l'élément déclencheur de cette baisse soudaine de la production, puisque ça intervient vraiment à partir de la deuxième moitié de 2022, eh bien, c'est l'annonce par Netflix au printemps de la baisse du nombre de ses abonnés. Ça a été suivi, on le sait, d'un plongeon du titre, et puis d'un effet domino sur les titres des concurrents. Et donc, tout le monde a été obligé de revoir ses ambitions à la baisse. C'est ça le sujet. Alors, là, je vous rejoins. Le bon côté de la chose, puisqu'il y a moins de production, c'est que tous les financeurs vont avoir le nez rivé, ou l'œil rivé plutôt, sur c'est quoi le projet que vous me proposez. Si c'est quelque chose qui n'a pas grande valeur, et on en a vu des navets quand même sur les différentes plateformes de streaming, on va pas se mentir, il y en aura peut-être moins parce que on va être plus regardant. Donc c'est un peu, si je voulais faire un parallèle, ça rappelle un petit peu, est-ce qu'il faut financer tout et n'importe quoi dans le cinéma français ou est-ce qu'il faut être un peu plus sélectif ?
Jean-Marc, Salto qui est en train de disparaître, Netflix qui se repense, on l'a vu, Spotify qui licencie 6% de ses effectifs, ça bouge beaucoup quand même.
Oui, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, quand on regarde la production intellectuelle des économistes sur ce sujet, ce qui me frappe, c'est qu'ils mettent en avant deux choses par rapport au modèle économique traditionnel. C'est plus il y a d'entreprises, plus il y a de concurrence, mieux ça vaut. Et deuxième élément, il y a un prix naturel qui est le coût marginal et donc il y a un prix qui émerge. Or, en fait, dans ce secteur, d'une part, on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être un nombre optimal de participants, pas forcément de plus en plus, peut-être qu'il y a un nombre optimal de participants, ce qu'on avait déjà constaté aussi dans les télécoms, dans certaines activités un peu de la nouvelle technologie. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces facturations sont faites sous forme d'abonnement. Et aucune de ces entreprises n'a été jusqu'à présent capable de trouver le bon prix de ce que doit être l'abonnement. Et alors, il n'y a pas que sur toutes les entreprises en réseau, parce que ça concerne aussi la presse écrite, ça concerne tous les gens qui vous permettent d'accéder, moyennant un abonnement à un certain nombre de prestations, ont du mal à trouver quel est le bon prix. Parce que, alors, c'est ce qu'on appelle système en rendement croissant. Pour l'instant, personne n'a trouvé une règle qui puisse dire, écoutez, voilà le bon prix. Et donc, tout le monde tâtonne, avec comme conséquence qu'il y en a quelques-uns qui restent au tapis.
Exactement. Mais dans cette période de crise, les plateformes, on l'a dit, se réinventent. Annalisa Capellini, vous êtes intéressée à YouTube, hein, par exemple, qui est en train d'étudier, pour le coup, une nouvelle offre de chaîne TV gratuite, Annalisa.
Exactement, et c'est aux États-Unis que la révolution de YouTube commence, parce que la plateforme serait en train de tester le streaming de chaînes TV sur le marché américain. Une offre gratuite, mais avec de la publicité qui pourrait permettre de générer plus de revenus. Un changement dont YouTube a extrêmement besoin parce que les revenus publicitaires de la filiale d'Alphabet ne cessent de baisser sur ces derniers temps. Ce modèle de télé gratuite permettrait aussi à YouTube de concurrencer non seulement les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, mais aussi les plateformes de VOD, de vidéos à la demande, donc Netflix et Disney en particulier. Reste maintenant à savoir si YouTube va effectivement décider de lancer ce modèle en Europe.
Ce nouveau modèle de chaîne TV en streaming semble séduire plusieurs acteurs, d'ailleurs, Annalisa.
Exactement, ça s'appelle FAST, des chaînes de streaming gratuites financées par la pub. Finalement, ça ressemble beaucoup au modèle de la télé traditionnelle, on y revient tous, avec la différence que ces chaînes sont accessibles sur les plateformes de streaming directement. Ce marché est déjà très important aux États-Unis, il a représenté 4 milliards de dollars l'année dernière. Et par ailleurs, YouTube aurait déjà des concurrents très bien placés sur ce marché. C'est le cas par exemple de Pluto TV ou de Rakuten. Et même Netflix a déclaré s'intéresser au secteur.
Merci beaucoup, Annalisa. Charles, on va avoir du mal à s'y retrouver. De la télé en streaming avec de la publicité, c'est pas ce que proposait Salto, par exemple ?
Ben si, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu du grand n'importe quoi. Vraiment, la recherche en fait, de le plus d'abonnés possible, quitte à sacrifier même un peu la qualité. Parce que, par exemple, on a parlé de Pluto TV ou de Rakuten TV. Je ne suis pas un grand expert, je ne vois pas souvent ces chaînes-là. Mais on sait que la qualité est quand même moindre par rapport à la télé, qui a forcément des accords plus élevés, ou Netflix. Mais par exemple, aujourd'hui, on parle de qualité, mais par exemple, Netflix, on a vu au cours des derniers mois, la qualité des films et des séries proposées s'amoindrit à chaque nouvelle sortie. En fait, aujourd'hui, c'est simplement des films ou des séries grand public qu'il faut regarder en une semaine, sinon la série va disparaître d'un coup après une saison. Ça devient un peu tout et n'importe quoi. Mais en effet, je pense qu'aller sur les nouvelles plateformes on pense par exemple à YouTube, c'est un moyen aussi d'attirer les nouvelles générations qui ne regardent plus la télé aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'autour de moi, la plupart des gens ne voient plus la télé parce qu'ils n'ont plus trop d'intérêt à regarder ceci. Ce qui est proposé est un peu déconnecté des plus jeunes générations. Ils vont se rediriger sur YouTube ou Twitch, où il y a vraiment un grand marché pour les chaînes traditionnelles d'aller sur ces plateformes-là.
Jean-Marc, on a quand même atteint un point là où il y a un nombre d'acteurs qui est complètement illisible presque par le consommateur.
Oui, complètement. C'est-à-dire que à la fois, le consommateur ne sait pas combien il va payer, puisqu'encore une fois, il y a tout un tas de procédures, donc l'abonnement. Hein. Et deuxièmement, il n'a pas la certitude que, puisqu'il s'abonne, l'abonnement va lui fournir ce qu'il attend. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien dans un supermarché, vous l'achetez une fois, et vous êtes sûr de ce que vous achetez. Quand vous achetez sous forme d'abonnement, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous achetez. Vous achetez des films, vous achetez des heures mais vous ne savez pas quelle va être la qualité. Et donc, je pense qu'effectivement, pour le consommateur, il y a un véritable enjeu. On en revient à, là aussi, sur ce genre de marché, les économistes disent ce qui est important, c'est la tierce personne. C'est-à-dire celui qui va vous dire, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, vous avez une sorte de marché de la tierce personne qui était le critique au 19e siècle, qui vous disait, au milieu de tous ces livres, celui qu'il faut lire, c'est celui-là. Et donc, ce qu'on devrait voir émerger, c'est un réseau de tierce personne, de gens capables de dire, sur des bases claires et sur des bases précises, voilà où il faut aller, voilà, avec un enjeu qu'il faut être sûr que la tierce personne n'est pas stipendiée par un des réseaux. Donc, toute une déontologie, tout un système va se mettre en place autour de la tierce personne qui va vous dire voilà où il faut aller.
Toutes les plateformes ne jouent pas la même course, Charles. Il y a la course à l'abonnement, on en a parlé tout à l'heure, et quelle forme va prendre cet abonnement et quel montant. La course au profit, ce n'est pas la même.
Mais pour moi, elles sont intrinsèquement liées concrètement. Parce que si on regarde par exemple Netflix, la seule métrique à regarder en général, c'est le nombre d'abonnés, oui, qui est forcément lié au prix payé finalement, aux abonnements. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même l'objectif, c'est soit vous augmentez le nombre d'abonnés, soit vous augmentez les prix. Mais Netflix a fait le choix très simple, elle a augmenté les prix parce que le nombre d'abonnés diminue un peu et elle diversifie ses offres. On a parlé de la nouvelle offre qui est avec la pub, qui
avec
coûte 5,99€.
Qui a plutôt bien marché, d'ailleurs.
Exactement. Elle a bien marché un peu en France, puisque c'est, je crois, 1,4 million de personnes en France. Mais aux États-Unis, c'est seulement, je crois, 9% des abonnés. Et la moitié étaient déjà des anciens abonnés. Donc finalement, en fait, il n'y a eu qu'un petit peu plus d'abonnés. Et ils ont perdu ceux qui payaient un petit peu plus. Donc il y a un arbitrage un peu à faire. Ceci dit, comme je disais Jean-Marc Daniel, justement, c'est que les gens payent et on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière, alors que vous payez un abonnement. Mais c'est un peu le principe de la vidéo à la demande. Normalement, vous savez un peu ce pourquoi vous payez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez commencer une série qui va terminer sur un suspense insoutenable. Et parce qu'elle n'a pas fait 200 millions de vues la première semaine, elle va être arrêtée. Mais alors qu'elle a peut-être fait 100 millions. Et c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu le problème. Ça devient en fait même plus pertinent de commencer une série avant qu'elle soit finie. Parce que vous allez être addict à une série qui va être terminée au bout de 2 mois parce que ça n'a pas fait assez de profit.
C'est vrai, c'est intéressant ça, Jean-Marc. On paye pour quelque chose qu'on ne connaît
Exactement.
Pas finalement.
On paye pour quelque chose que l'on ne connaît pas. Et encore une fois, on est obligé, dans cette base d'informations, de faire confiance. Alors on fait confiance soit à l'entreprise en tant que telle, et je reviens, soit à ce qu'on appelle la tierce personne, le critique. Et c'est un modèle qui est assez courant, parce qu'il paraît 500 livres à la rentrée littéraire en France. Vous n'allez pas lire les 500 livres. Oui. C'est pas possible. Donc vous êtes obligé de vous appuyer sur quelqu'un qui va vous dire les bons livres qu'il faut lire, c'est ça, ça, ça. Et ça.
Mais là, il va y avoir autant de critiques que de plateformes.
Eh bien, de même, il va y avoir des gens qui vont se spécialiser sur certaines plateformes, qui vont vous dire celle-là, elle est bonne, etc. Il y a un écrémage dans le critique qui va se faire, mais c'est un métier qui va être renouvelé. Et encore une fois, il y a tout un modèle économique qui était né sur la tierce personne, le critique, qui est en train d'être réactualisé dans la pensée économique.
Pierre.
Les critiques, quand même, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai pour le cinéma, quand vous allez voir un film, vous regardez ce que éventuellement dit Télérama ou un autre critique qui vous. Canard enchaîné, peu importe. Mais parfois, vous regardez aussi ce que disent ceux qui sont allés voir le film, le grand public.
Oui.
Et que c'est devenu peut-être même un élément de référence plus puissant, plus fort que ce que peut écrire le critique qui a ses préférences dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas forcément, qui a des critères qui ne sont pas forcément les vôtres. Oui. Et donc, je trouve que de plus en plus de personnes, aussi bien d'ailleurs pour les séries que pour les films, vont s'appuyer sur le bouche à oreille finalement, ce qu'écrivent, ce que disent ceux qui ont déjà vu la série.
Oui, d'ailleurs, mais dans le modèle théorique du critique, ce qu'on met en avant aussi, c'est l'effet de secte. C'est-à-dire qu'en fait, ou bien vous adressez à un critique professionnel, ou bien vous adressez au bouche à oreille, mais ce bouche à oreille, vous le choisissez au préalable. C'est-à-dire, vous allez écouter des gens qui sont de votre même milieu social, qui sont de même.
Il y a un biais, c'est ce que vous voulez
biais,
dire.
Il y a un biais, donc de votre même philosophie politique, de même philosophie religieuse. Ouais. Et donc, un des enjeux aussi pour les plateformes, ça va être de réaffirmer le rôle d'une critique indépendante, d'une critique qui soit une critique qui se veut professionnelle.
Merci beaucoup, messieurs. Donc, secteur en pleine transformation. On ne sait pas si l'âge d'or est terminé, mais en tout cas, on va suivre ça, évidemment, sur BFM Business. Merci Jean-Marc Daniel, merci Pierre Kupferman, merci Charles Sterling d'être venu nous voir aujourd'hui. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Avec vous, Lorraine Goumeau, vous répondez à toutes les questions et vous recrutez aujourd'hui particulièrement pour Val Thorens, Lorraine.
Oui, on est avec le directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Il s'agit de Vincent Lalanne. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, vous arrivez avec votre casquette de votre station, Val Thorens, mais vous êtes le porte-parole de tout un écosystème dont on va parler dès 13h15 avec nos auditeurs. Si vous avez des questions à poser à Vincent, eh bien, vous lui adressez. Mais on voulait revenir avec vous d'abord sur ce chiffre de 5000 saisonniers. C'est le volume de gens dont vous avez besoin pour faire tourner ce qu'on appelle la vallée de Belleville. 5000, vous avez réussi à recruter tous ces gens cette année ?
Oui, on a la chance dans la vallée des Belleville d'avoir plusieurs stations en fait. Donc moi je dirige la station de Val Thorens, mais en fait il y a également la station des Ménuires et la station de Saint-Martin de Belleville, et l'écosystème est régi effectivement par une commune qui est la commune des Belleville, donc qui emploie à peu près 5000 saisonniers par an sur la vallée.
Alors c'est 6 mois de ski, la saison c'est 168 jours, il ne faut pas en perdre un seul. Vous me disiez en préparant cette interview que vous n'avez pas de problème de négociation salariale, ça s'est bien passé chez vous. Donc de votre côté, la saison est quasiment garantie, mais évidemment dans l'actu du jour, il y a cette menace sur les vacances de février. Comment vous anticipez la situation ?
Alors, vous avez prononcé le bon mot, c'est-à-dire c'est l'anticipation. C'est pour ça que les négociations salariales ont déjà eu lieu, en particulier pour les employés de remontée mécanique. Donc effectivement, la grève est un peu un non-sujet. Et si gréviste il y a, il y aura peut-être quelques responsables syndicaux qui vont participer à des mouvements nationaux. Mais en tout cas, on tient à rassurer nos clients et visiteurs. Il y aura un impact qui sera quasi invisible sur les remontées mécaniques et sur le fait qu'ils vont passer un séjour de rêve à Val Thorens. Par contre, on est effectivement, comme tout le monde, très inquiet pour les transports, puisque là il y a une espèce de prise d'otage généralisée de certaines corporations, entre autres la SNCF pour ne pas le nommer, qui vont en fait stresser beaucoup de nos clients, qui vont hésiter à prendre le train et du coup prendre la voiture pour venir, parce que quand on est une famille avec au minimum 2 voire 3 enfants, on va pas prendre le risque de se retrouver bloqué dans des grèves de transport en commun.
Bon, on comprend un peu votre situation. Voilà, on va revenir en tout cas sur l'économie de votre station de la vallée et des belles villes et des gens dont vous avez besoin à court terme, et puis voilà, plus largement sur le secteur des saisonniers. Voilà Sandra, le programme.
Voilà le programme à suivre dans une minute sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. Lorraine répond à vos questions, vous pouvez continuer à lui poser pendant l'émission sur cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. 90 minutes business avec vous, c'est tout de suite donc avec Lorraine Goumeau. Quant à moi, je vous retrouve demain dès midi sur BFM Business, et vous pouvez retrouver évidemment cette émission avec toute l'équipe en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Très bonne journée à tous.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.